Faites comme Clara qui se remémore les cimes de Jérusalem.
J'aimais bien déambuler sur les toits de Jérusalem. C'était des toits plats qui étaient collés les uns aux autres et qui permettaient de se balader d'un point A à un point B sans passer par la rue. Parfois, on partait la nuit, on faisait des sortes de rallyes nocturnes en essayant d'aller le plus loin possible jusqu'à ce qu'on bute sur une impasse.
France Inter, chacun sa route.
Chacun sa route, c'est une émission pour lui, tant son parcours est un mélange de voyages. Partir, fuir, revenir, c'est une envie de liberté, un exil aussi. Nous allons traverser la Roumanie, Israël et la France. Notre invité a réalisé des films forts, souvent appréciés du public. Le premier, Trahir, sort en 1993. En 2005, il reçoit le César du meilleur scénario et deux prix à la Berlinale pour Va, Vis et Deviens. Quatre ans plus tard, son film Le Concert attire près de 2 millions de spectateurs dans les salles de cinéma. En 2016, il nous raconte l'histoire de l'amour, rien que ça. Pour entamer cette conversation, il a choisi de nous lire un petit texte.
Élodie Font, chacun sa route, sur France Inter.
Au début, je l'ai criblé de questions. Et c'est quoi cette plante, cette trace? Et pourquoi as-tu posé un piège là? Il ne répondait pas. Ou alors, après un temps infini, tu parles trop. Trop? Mais ils ne parlaient jamais, eux. Ou seulement s'ils avaient quelque chose d'important à dire. À mots brefs, toujours. Chaque Indien est à l'écoute de la forêt, du vent, de la course des nuages, des bruits tenus de la vie animale. Chaque son, chaque odeur lui parle. Mais pour cela, il faut accepter de faire silence en soi, de laisser venir à soi le monde. Nous, les Blancs, nous transportons notre monde avec nous. Nous parlons fort comme des envahisseurs. Et la forêt, alors, se retire avec ses mystères. La jungle n'était pas seulement un monstre dévorant ses proies, elle était aussi la suprême beauté, et qu'elle peut être les deux, parfois, en même temps. J'ai appris cela, qui vaudra peut-être tout le reste de ma vie, que nous sommes plus grands que nous.
Bonjour Adoumia Ileanu.
Bonjour.
J'ai bien prononcé votre nom ?
Presque, mais mieux qu'à d'autres.
C'est gentil. Comment on prononce votre nom ?
Donc en français, on dit Mihailanu, parce qu'il y a un U. En roumain, c'est Mihailanu. Et après, chaque pays le dit différemment, mais la plupart des gens disent Radu, et ça me va très bien.
Ah, bon ben on va peut-être vous appeler Radu. Non, je vais quand même retenter de prononcer votre nom de famille au cours de cette émission, quand même. Pourquoi avoir choisi ces extraits de La beauté du monde de Michel Lebris ?
Pour plein de raisons. D'abord parce que c'est un immense écrivain, parce que c'est un grand voyageur dans tous les sens du terme, et dans les termes géographiques, métaphysiques, spirituels, psychologiques, parce que c'est un grand monsieur qui a fondé peut-être le plus grand festival littéraire au monde qui concerne le voyage, les étonnants voyageurs de Saint-Malo, et parce que c'est un très grand ami de mon meilleur ami, Alain Michel Blanc, qui est mon meilleur ami, co-scénariste, et qui vit aussi à Saint-Malo, à côté de Michel Lebris, qui vit dans les environs de Saint-Malo.
Ah, donc vous faites des week-ends réguliers où vous discutez avec eux?
Plus que des week-ends. Je vais souvent chez Alain Michel pour travailler, puisque c'est mon co-scénariste. On voyage énormément ensemble pour tous nos projets. On va d'abord sur les lieux du crime pendant des mois pour interroger les gens, pour essayer de comprendre ce qui pour nous semble très, très lointain. Donc ça forge des amitiés, ça forge des fous rires, ça crée beaucoup de choses.
On en reparlera tout à l'heure de votre manière de travailler. Vous parlez trop, vous, si je reprends les phrases de cet extrait ?
Les deux. Il y a des moments où je parle énormément et j'adore l'humour, donc j'arrête pas de faire des vannes ou de donner des répliques. Et il y a des moments où effectivement le silence m'est nécessaire, parfois la solitude, ou juste l'écoute de l'autre.
Et La beauté du monde, pour reprendre son titre, La beauté du monde, elle vous apparaît où ?
Elle surgit de partout. C'est-à-dire la beauté du monde, elle surgit dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, dans les voyages, dans tout voyage. Même quand je suis à Paris, souvent c'est un voyage. Et effectivement, j'ai écouté tout à l'heure, j'aime beaucoup marcher à pied. dans les rues de Paris. Donc je découvre à chaque fois, je pousse des portes lorsqu'il n'y a pas de code. Je découvre des cours et voilà, j'adore voyager, j'adore découvrir. Et forcément, même si c'est inconscient, à travers la découverte des autres ou d'autres lieux, je me découvre moi-même.
Vous imaginez en train de pousser les portes pour vérifier s'il y a un code ou pas?
J'essaie, en tout cas j'appuie sur les boutons parce que parfois durant la journée jusqu'à 18h, il y a des portes qui s'ouvrent sans les codes. Mais j'adore ça, et Paris, c'est une ville tellement mystérieuse. Il y a derrière des immeubles et des portes des choses qu'on n'imagine pas.
Vous êtes arrivé à Paris en 1980. On va revenir en arrière, si vous le voulez bien, pour raconter un peu votre histoire. Vous êtes né en Roumanie en 1958. Et si vous le voulez bien, j'aimerais bien qu'on y aille dans cette Roumanie des années 60-70. À quoi elle ressemblait? À quoi ressemblait Bucarest, la capitale?
Oh, il y avait de tout. Bucarest était à la fois une sublime ville, à la fois très poussiéreuse. Il y avait un vieux quartier qui n'avait pas encore été détruit par notre cher camarade Ceaușescu. Il y avait, par exemple, moi j'ai joué plus tard dans le théâtre juif de Bucarest, en Yiddish. Là, il y avait un sublime quartier, très ancien. Après, il y avait beaucoup de HLM, à la soviétique. Staline était passé par là, pas longtemps, heureusement, mais quand même. Mais pour moi, j'ai toujours eu une nostalgie parce que depuis assez jeune, avec mes copains, on se baladait beaucoup la nuit. Pour la simple raison aussi qu'on pouvait pas trop parler dans la maison où on craignait les micros, ou dans des intérieurs, ça ressemble au Covid. On était beaucoup plus en sécurité à l'extérieur, on faisait de longues marches à pied la nuit, et là on refaisait le monde et on parlait vrai. On disait tout ce qu'on pensait au niveau politique, au niveau social, à tous les niveaux.
Et pourquoi la nuit plutôt que le jour?
Parce que certains travaillaient, on était à l'école, après on faisait des études, et que, je sais pas, la nuit nous semblait plus propice à s'ouvrir. Et je me souviens même, et là, il y a eu des chocs après quand j'ai immigré, on allait chez certains, on envoyait une petite pierre dans le carreau de la fenêtre, quand c'était pas au 10e étage, et la personne tout de suite descendait, c'était le code. Il n'y avait pas de téléphone portable, tout ça, on n'appelait pas forcément avant, on prévenait pas qu'on arrivait. La personne descendait si elle était là et on partait. On partait en voyage.
Faut pas habiter trop haut quand même.
Non, mais il y avait quand même pas mal d'immeubles ou de maisons anciennes. Donc c'était, premier, deuxième étage. Quand il y avait des HLM très haut, on était obligé de monter.
Et c'est, je fais une petite parenthèse, mais c'est ce que vous avez appelé le syndrome de 22 heures quand vous êtes arrivé en France.
Ah oui, ça c'était terrible.
Et justement, découvert que ici on faisait pas comme ça et que à 22h on n'arrivait pas chez les gens, en tout cas que ça se faisait moins.
Même appelé, c'est-à-dire plusieurs fois il m'est arrivé, parce que l'immigration parfois c'est un peu difficile, c'est-à-dire on a un peu la nostalgie, le stress, on déprime, donc tout de suite on appelle les copains, on se dit c'est comme à Bucarest, les copains sont là pour nous aider. Et j'ai très vite compris qu'après 22 heures, ça posait quand même des problèmes. Souvent, il y avait des copains qui vivaient déjà en couple. Donc, je me suis dit, après 22 heures, tu fermes ta gueule, tu te promènes tout seul dans Paris. Et ça m'a aidé, j'ai connu Paris à pied aussi, parce que j'avais pas de sous non plus pour... à l'époque aussi, il y avait le métro, mais c'était assez cher. Donc je connais très très bien Paris, toutes les petites rues, je les fais en long, en large et en travers, parce que je dormais pas, parce que plein de raisons.
Radou Mehailanou, Radou.
Radou, c'est plus simple. Oui.
Est-ce qu'il y avait des sons et des odeurs spécifiques à la Roumanie?
Ah oui, il y avait les épices, les fleurs, c'était peut-être à cette époque-là, en tout cas mon souvenir moins pollué. Et il y a d'autres souvenirs quand même qui datent pas de Bucarest. J'ai passé beaucoup de mon enfance à la campagne. Et là j'ai des souvenirs terribles, parce que c'était terrible de beauté mais que je ne retrouve plus. Par exemple, couper une tomate, je me souviens, lorsqu'on l'a coupée, jaillissait une odeur de la vraie tomate. Jaillissait l'odeur du vrai poivron. Quand on ouvrait un abricot, il y avait une odeur, l'oignon avait une odeur, que je trouve rarement, en tout cas en Occident. Parfois en Afrique, j'ai retrouvé ça, parfois en Asie, mais pas tant que ça. Et je découvre de plus en plus, même dans ces pays lointains, où arrivent des fruits et légumes de Turquie ou d'ailleurs, je me dis c'est terrible. Mais ces odeurs-là, les épices et ces odeurs des fruits et des légumes me quitteront jamais.
Vos parents vous avaient emmené à la campagne parce que j'ai lu que vous étiez un peu sauvage.
Un peu, oui.
Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire qu'à la crèche, je me bagarrais beaucoup, je prenais tous les jouets, je tenais pas en place parce que j'avais besoin de bouger, j'avais beaucoup d'énergie. Donc à un moment donné, ils en ont eu marre qu'ils se fassent appeler tous les jours pour se faire engueuler. Donc ils connaissaient un grand poète roumain qui s'appelle Miron Radu Paraschivescu, qui était un grand poète gitan, qui vivait dans un petit village. Et lui, il avait un ami paysan qui n'avait jamais eu d'enfant et qui rêvait s'occuper d'enfants. Donc il a parlé à mon père et mon père a décidé de me laisser de longues périodes chez cet homme et sa femme qui étaient adorables et c'était des vrais paysans. J'allais avec eux au champ, ils labouraient avec un cheval, donc je les aidais comme je pouvais et je me souviens on mangeait oignons, tomates, pain, un gros pain fait à la maison et l'oignon il le cassait avec un coup de poing. Il donnait un coup de poing sur l'oignon explosait, l'odeur surgissait et on mangeait ça et avec la feta et on était heureux.
Ça me fait penser à votre film « Va, vie et deviens » où le personnage principal, Shlomo, enlève ses chaussures quand il arrive dans un parc pour sentir la terre avec ses pieds. Est-ce que vous avez parfois cette envie quand vous vous promenez ?
Ça m'arrive.
Vous a passé
je le fais moins maintenant, mais ça m'arrive effectivement. Comme j'ai vécu à la campagne et qu'on allait jouer par exemple au foot avec les autres garçons, on allait en caleçon ou en slip. C'était des slips chinois à l'époque qui nous arrivaient jusqu'aux genoux. Et on partait, on prenait le petit déjeuner. On partait et on revenait juste au repas. Et effectivement, on allait pieds nus. On n'avait pas de sandales. Et d'ailleurs, une fois, je me suis pris un grand clou de 10. Ça a été la grande tragédie du village. Tout le monde en a parlé pendant quelques jours.
En 1974, Ceaușescu, vous le disiez tout à l'heure, devient un président de la Roumanie. Mais il est déjà dans les hautes sphères du Parti communiste depuis plusieurs années. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez compris que s'installait une dictature ?
Il est arrivé en 65.
Oui, mais président, c'est en 74, non ?
Non, 65, président.
65.
Et il a tourné, disons, il a été formidable pendant quelques années. On croyait que c'était un communiste rénovateur. Et au retour d'un long voyage en Chine et en Corée du Nord, il a complètement changé. Et ça, c'était en 73 à peu près, je crois.
Ah, c'est cette date-là que j'ai vue.
Voilà. Et là, c'est devenu de plus en plus
C'est peut-être
terrible.
À partir de ce moment-là, à partir de 73-74, que c'est devenu une dictature.
Ah oui, c'était toujours pas une grande démocratie avant, mais c'était quand même beaucoup plus ouvert que l'époque d'avant de Gheorghe Gheorghiu-Dej, qui était très, même s'il a fichu les soviétiques, si je peux dire, dehors, mais il était quand même un peu pro-soviétique. Et Ceaușescu a fait semblant, en tout cas, longtemps, et même il nous a trompés en 68, lorsqu'il s'est opposé aux soviétiques lorsqu'ils sont rentrés à Prague. Mais la première période a été très libérale, si je peux dire. On pensait qu'on était un pays différent, au même titre que la Yougoslavie de Tito. Et en 73, on a commencé à comprendre nos douleurs.
Et justement, comment ça s'exprime au quotidien ?
Ça s'exprime par plein de choses. C'est que vos parents vous disent très vite qu'il ne faut pas dire n'importe quoi, n'importe où, avec n'importe qui.
Pas chez vous non plus d'ailleurs, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il faut sortir.
Chez nous, on faisait couler l'eau dans la baignoire et on parlait dans la salle de bain, puisque ça faisait beaucoup plus de bruit que le bruit des paroles, ou sur le balcon parfois, mais même sur le balcon, on se méfiait. Et ça se traduit, c'est qu'on se méfie de tout le monde, ce que la police secrète souhaite, c'est-à-dire ils souhaitent installer une parano. Donc on a très peur de dire quoi que ce soit à qui que ce soit, et parfois même on a découvert, et ça c'était le sujet de mon premier film, à l'intérieur des familles, il y avait des espions. Donc ça c'était un sport national. Malgré ça, on était les champions du monde de blagues. C'est-à-dire, on n'arrêtait pas d'inventer, de faire des blagues sur Ceaușescu et sa femme, sur la police secrète, etc. Et on risquait notre vie, hein. On se rendait pas compte, on était inconscient. Mais bon, voilà, la vie, elle est souvent plus forte que la peur. Mais on avait des uniformes, par exemple, à l'école. Tout le monde devait avoir le même uniforme avec un matricule, avec le numéro. Parce que si on faisait une bêtise dans la rue, on relevait le lycée, l'école, le numéro. Et nous, comme on était malins, on mettait ce numéro matricule avec des clips. Et dès qu'on sortait de l'école, on l'enlevait. Et après, on se faisait engueuler par la police, etc. Pareil, oui. On nous coupait les cheveux très courts pour les garçons. Et moi, je cousais mes cheveux. Pareil, quand j'arrivais à l'école, ils regardaient derrière, c'était rasé. Mais quand je sortais, j'enlevais le fil et les cheveux étaient plus longs. Voilà, plein de conneries, mais voilà.
Est-ce que vous avez continué, même en étant arrivé en France après, est-ce que vous avez continué à faire attention à ce que vous disiez quand vous étiez à l'intérieur des maisons ?
Au début, oui, et surtout au début, j'étais paranoïaque, comme toute ma famille était restée là-bas et risquait des représailles, donc fallait que je me comporte quand même pas trop mal. sachant qu'il, voilà, tout pouvait être su. Et à un moment donné, il y avait des amis roumains qui étaient à Paris, et comme on était parano, je me méfiais même d'eux, même s'ils étaient innocents. Donc je parlais pas du n'importe quoi, et pendant les 3 premières années en France, je ne rentrais jamais directement chez moi à la maison, de peur d'être poursuivi. Je faisais 3 fois le tour du pâté de maison pour être sûr que personne n'était derrière moi. Ah et oui. Le courrier, je le recevais de Roumanie, chez un ami, chez Marc-Henri, qui lui me le donnait. Je voulais pas qu'il sache où j'habitais.
Oui, donc vous êtes resté méfiant en tout cas pendant...
Plus que méfiant.
Oui, il y a même parano, c'est ce que vous dites.
Une histoire où à 4 heures du matin, un voisin a tapé à ma porte. Je vivais dans la loge d'un gardien, puisque je payais rien. Et il a tapé tellement fort que moi je me suis dit c'est la sécurité, je suis fichu. J'ai sauté par la fenêtre de l'autre côté. Je me suis dit ils sont certainement à plusieurs, donc ils m'attendent de tous les côtés. J'ai pris un gros couteau et j'étais presque prêt à tuer. Et je découvre un pauvre mec qui était lui un réfugié kurde de Turquie et qui me dit on m'a piqué ma chenille, je croyais que c'était toi. Et donc on est allé prendre un café, je sais pas où c'était ouvert à 4 heures du matin, se raconter les histoires de réfugiés à Paris, quoi.
Eh ben, le réalisateur Radu Mihaileanu est notre invité dans Chacun sa route jusqu'à 15h. Rome ne s'est pas construite en un jour. J'adore l'idée que Mort qui bat en ait fait une chanson.
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Bah, sur France Inter, vous écoutez Chacun sa route et nous sommes en compagnie du réalisateur Radu Mihaileanu qui nous accompagne jusqu'à 15h. À 22 ans, vous fuyez donc la Roumanie de Ceaușescu. C'est votre père, hein, je crois, qui vous pousse à partir, qui vous dit T'as pas d'avenir ici, il faut aller ailleurs.
Tu finiras mal, surtout.
Tu finiras mal.
Parce que comme je continuais à être un peu sauvage, ils craignaient que je finisse en prison. J'avais une troupe de théâtre clandestine où je jouais des pièces où je critiquais un roi et une reine, où je disais à la police que c'était, ça se passait en Angleterre, dans un pays impérialiste, mais tout le monde reconnaissait Ceausescu et sa femme, donc voilà, j'étais sur une mauvaise pente.
Et eux ne partent pas avec vous? Vous partez seul?
Ah non, ils ne pouvaient pas.
Ils ne pouvaient pas?
Ah non, non, on ne laissait pas partir les Roumains comme ça à l'étranger, c'est-à-dire c'était, moi pour partir, la seule technique, bon, mon père était venu en France avant, entre guillemets repéré, c'était un ami de Malraux et d'un tas d'intellectuels qui étaient amis de Malraux, et il est rentré, moi je voulais faire du théâtre, je ne connaissais rien au cinéma, je n'avais jamais pris une photo de ma vie, et il rentre et il me dit pour faire du théâtre, une école de mise en scène de théâtre en France, ce n'est pas possible, il faut que tu fasses le conservatoire en tant qu'acteur, tu ne parles pas bien la langue, impossible. Donc la seule chance que tu as, c'est faire une école de cinéma, qui était l'idée que la Fémis d'aujourd'hui. Et il faut que tu fasses des travaux, mais ça, on ne peut pas les envoyer officiellement, il faut qu'on envoie clandestinement, et ensuite tu auras la réponse trop tard, donc il faut que tu fasses une demande de partir en Israël, parce que personne ne te donnera un visa pour la France, c'était impossible. Donc tu pars tout seul officiellement visiter ton grand-père pendant 2 semaines et tu oublies de rentrer. Et de là-bas, si tu as eu l'examen en France, j'espère qu'ils te donneront le visa d'étudiant. Il y a quelques amis qui vont essayer de t'aider. Tu arrives en France, tu fais tes études et tu reviens jamais. Donc voilà le plan.
Et c'est ce qui s'est passé.
C'est ce qui s'est passé avec des petits accidents. Mais ce qui s'est passé, oui, j'ai passé, c'est-à-dire j'ai écrit ce qu'on appelait un concours sur titre. J'ai envoyé par un ami étudiant israélien en stomatologie à Bucarest, qui a mis dans son linge-sale, qui a amené en Israël chez des amis de mes parents, qui eux ont envoyé en France en disant « Vous nous répondez à nous par téléphone ». Et eux, ils devaient nous appeler avec un code en disant « Notre fille a eu l'examen ». Et ça voulait dire que c'était moi.
Et vous partez, ça veut dire que vous partez avec une petite valise, hein, puisque vous êtes censé partir pour 15 jours en Israël.
On a le temps des gags. Je pars le 20 novembre, je ne sais plus, non, avant. En novembre, il y avait la neige en Roumanie. Je partais en Israël, donc officiellement en Israël il faisait 20 et quelques degrés. Je ne pouvais avoir dans la valise que des t-shirts et des vêtements légers. Et ça, ils contrôlaient à la douane, la Securitate contrôlait tout. Et je sais que je vais arriver en France où il va y avoir l'hiver, froid, et que j'ai pas d'argent pour m'acheter des fringues. Donc les fringues d'hiver, je les mets sur moi. J'avais 2-3 pulls sur moi, 2-3 chemises en laine sur moi. J'étais un bibin d'homme. Et dans la valise, il y avait que des affaires d'été pour Israël. Donc heureusement, ils ont contrôlé que la valise, et ils ont pas contrôlé. Mais quand je suis arrivé en Israël, j'étais en nage, j'ai dû tout enlever dans le bus.
Et vous vous souvenez de ce que vous ressentez dans cet avion? Est-ce que vous sentez que vous partez pour de bon?
Ah oui, mais ce qui est bien, c'est qu'étant jeune, on est à la fois inconscient, c'est-à-dire on n'a pas peur, on se dit pas « oh là là, j'ai pas un rond, comment je vais faire et si ça se passe mal ?» Non, on se dit « je pars, je m'enfuis, j'ai la chance de m'évader alors que la moitié du pays veut le faire et ils peuvent pas le faire ». Et après, bon, mon père m'avait dit « dans l'avion, comme c'était un avion roumain, tu parles toujours ». Pas, parce que un avion roumain est un territoire roumain jusqu'au moment où tu en sors. Même sur la piste à Tel Aviv, tu ne dis pas un mot que tu ne veux pas revenir. Officiellement, tu rentres dans 2 semaines.
Et donc, vous partez quelques semaines plus tard en France, hein, puisque vous réussissez à obtenir...
On me refuse le visa, après voilà. Je l'obtiens. Bon, voilà.
Et vous arrivez, je dis quelques semaines, parce que je crois que vous arrivez à la toute fin de l'année, non, en France.
J'arrive le 4 décembre.
Voilà,
j'arrive
c'est ça.
Le 4 décembre, il y avait déjà des sapins sur les Champs-Élysées avec des ampoules. Pour moi, c'était Disneyland, c'est-à-dire je débarquais, je connaissais un peu Paris par les photos, et mon père nous racontait beaucoup, nous montrait beaucoup de choses, mais là, je débarque dans un autre monde.
Et oui, j'imagine, il fait pas plus froid qu'en Roumanie par contre, il n'y a pas cette...
Ah non, il fait plus chaud, il fait plus chaud à Paris à cause du métro, à cause d'un tas de choses. En Roumanie, il peut faire moins 20 en hiver.
C'est la France de Giscard d'Estaing encore, hein, puisque
exact,
c'est exact. Juste avant
Mitterrand
la France.
Arrive juste après.
Ouais, juste avant la France de Mitterrand. La France, elle vous surprend par quoi, à part par les sapins de Noël?
Partout.
Partout. Tout est complètement.
tout est différent et en même temps, je suis tellement heureux. C'est-à-dire, j'ai pas un rond, mais je me suis dit, mais je suis libre. Le reste ne compte pas. Et surtout, j'avais besoin d'argent pour appeler mes parents et dire la version officielle qui était, bon, j'appelle, mon père m'engueule, qu'est-ce que tu fais là ? Tout ça pour les protéger, eux et mon frère. Donc, moi, je dis, non, mais excusez-moi, je fais juste mes études et je rentre pour donner du temps à mon frère pour que lui aussi s'évade. Bon, bref. Mais je découvre quand même un peu de racisme, puisque je parle mal français. Je découvre un monde tellement riche pour moi, alors que je sais qu'en Roumanie, ailleurs, les gens sont tellement pauvres. Et je me dis, waouh, c'est ça le monde, alors que j'avais quasiment pas voyagé. Je me dis, c'est ça le monde, il y a des différences tellement énormes. Là, il y a des lumières partout, alors que Bucarest était dans le noir. Hein. La nuit, il y avait quasiment pas de lumière. Donc, tout était à la fois merveilleux et choquant. Je dirais presque, même si c'est un mot fort, c'était merveilleusement indécent,
ouais.
ce que je découvrais. Mais je m'abreuvais de tout ça.
Vous avez eu la sensation, c'est le titre de votre premier film, Trahir. Est-ce que vous avez eu la sensation de trahir un peu la Roumanie en partant ?
Non, ça non. Après, effectivement, je me suis posé la question, quelle est la frontière entre le verbe s'adapter et trahir ? C'est-à-dire à quel moment l'espèce humaine et tout dans l'univers, tout n'est qu'adaptation. On passe d'un cycle à un autre cycle, mais à quel moment on s'adapte en trahissant notre propre nature et ce qu'on est le plus profondément. Donc oui, ça, je me posais cette question-là par rapport à la langue, par rapport à ma culture, par rapport à... Je voulais m'adapter, j'en avais marre d'avoir un accent, j'en avais marre qu'on me pointe, qu'on me critique, qu'on me ceci, cela. J'en avais marre d'entendre parler de liberté par des gens qui savaient même pas ce que ça voulait dire, la liberté ou la non-liberté. Et en même temps, je voulais être comme eux. Je voulais être invisible.
Vous ne retournez pas en Roumanie jusqu'en...
Jusqu'après la Révolution, je ne peux pas. Je suis
officieusement
exilé politique, même si je ne le suis pas officiellement pour protéger mon père, mais la police, l'OFPRA, tout le monde était au courant. Et donc, je suis rentré en février ou mars 90. La Révolution a lieu en décembre. Et deux mois après, je rentre en Roumanie pour tout voir, voir mes amis, voir les lieux, tout ça.
Juste après sa mort, hein, à Ceaușescu, puisqu'il est exécuté. 10 ans, donc 10 ans sans voir la Roumanie. Vous n'avez vu personne entre les deux. 10 ans, c'est quand même un long laps de temps.
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Vous n'avez pas revu vos parents, par exemple,
Si, mon frère est arrivé en 83.
Et vos parents ?
Et mes parents les a sortis en 85.
Ah, en 85, ok, c'est ça que je me demandais.
85, donc non, on était tous réunis à Paris.
Ah, ouf, ok.
Et après, on parlait, soit des gens qui voyageaient rarement à Paris, soit on envoyait des lettres. Moi, j'avais au début une amoureuse que j'avais laissée là-bas, donc on échangeait des courriers. On écrivait ce qu'il fallait écrire et pas ce qu'il fallait pas, mais on écrivait beaucoup entre les lignes. Donc j'avais des nouvelles. Et après, il y avait des Roumains qui venaient à Paris, qu'on voyait, dont on se méfiait, dont on ne se méfiait pas, voilà, c'était toujours cette ambiguïté-là.
Oui, c'est resté même quand vous étiez en France. Vous avez tourné en Roumanie, en
80... Tout après, Trahir, oui. 91, 12, 12, 13... 12, oui.
Puisque ça sort en 93.
Donc oui, je crois 11, j'ai dû tourner, oui.
C'était important pour vous que votre premier film, vous le tourniez là-bas ?
C'était important de raconter ce qu'il y avait de plus profond en moi et de plus urgent, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est un peu inspiré de la vie de mon père et d'un de ses amis. Et d'effectivement me poser cette question, trahir, qu'est-ce que c'est trahir, qu'est-ce que c'est s'adapter, que j'avais intensément vécu, et d'évacuer, entre guillemets, la dictature qui est un virus qui vivra toujours en moi, mais de l'évacuer un tout petit peu pour vivre un peu mieux avec.
Vous faites confiance à votre mémoire, vous ?
Parfois oui, parfois non.
Parfois oui, parfois non, puisque on va parler de mémoire avec cette très belle chanson de la chanteuse Pomme, Oublier ton prénom et le chemin de la maison, extrait de son album Les Failles. Pomme nous emmène dans la lumière sur France Inter.
Si je n'ai pas retrouvé dans tes yeux la lumière, c'est que ton cœur château des secrets, tu es le moins
C'est la lumière de Pomme sur France Inter. Vous écoutez Chacun sa route avec Radou tous les jours à un petit peu après 14h30. C'est l'un de vous qui nous écoutez, qui nous offre un moment en voyage, un moment qui vous a touché, déboussolé, aimanté. Racontez-nous le répondeur 01 56 40 68 68. Mon mail elodie.fond@radiofrance.com. Aujourd'hui, Monica nous emmène dans un monde qui va vous parler, Radou Mihailanu, une ville de Prague encore sous le joug communiste.
Mon père était écrivain et journaliste, et c'était le seul journaliste occidental qui était présent au moment du printemps de Prague et l'invasion soviétique. Il couvrait les événements pour des journaux, mais il a aussi décidé d'écrire un livre autobiographique sur notre période là-bas. Et donc ma grand-mère venait régulièrement de New York pour récupérer les pages du manuscrit pour les rapporter à l'éditeur. La police secrète a eu vent de quelque chose et donc ils ont installé des micros dans l'appartement. Mon père et sa mère discutaient de où il fallait cacher les pages dans la valise, en gros, pour pas trop que ce soit vu. Mais du coup, quand ma grand-mère est arrivée à l'aéroport cette fois-là, ils sont allés directement prendre les pages là où elles étaient cachées dans la valise. Donc c'était un extrait, je sais pas, c'était peut-être une soixantaine de pages sur un livre qui en fait 500. À chaque fois qu'il y avait le mot « invasion », ça faisait 20 ans de prison. Et voilà, à chaque fois qu'il y avait une comparaison de Brejnev avec quelqu'un de pas bien, un mafioso ou quoi, c'était 35 ans de prison, etc. Ils ont fait le total. Et après, ils ont convoqué mon père à la police et ils ont dit « vous avez 48 heures pour partir ou sinon ce sera 5615 ans de prison ». On a choisi l'option 48 heures. Et ça a été extrêmement stressant parce que en fait, il fallait rassembler toutes les affaires. On s'est dépêché, on n'a pas réussi à partir en 48 heures. En fait, on est parti peut-être une dizaine d'heures après. Je me souviens de cette ambiance tétanisante, quoi. On a l'impression à un moment donné que, comme on n'était pas dans les temps, on était paralysé par la peur. Et voilà, j'avais peur qu'on mette mon papa en prison. Moi, j'avais 7 ans à l'époque, ma sœur en avait 6. Ma mère avait demandé si elle pouvait rester plus longtemps pour faire les bagages et ils ont dit non parce que elle était collaboratrice de son mari, donc elle était aussi coupable que lui. Et elle a demandé pour les enfants et ils ont dit non, que c'était, on était en fait les plus jeunes espions jamais expulsés de Prague. Parce qu'ils estimaient que si on se faisait des amitiés sur l'aire de jeu, c'était pour ensuite pouvoir récolter des informations pour notre père. On a embarqué dans un train de nuit avec des malles et des valises et tout. Et à la frontière, je me souviens, c'était extrêmement militaire. C'était les soldats soviétiques en fait qui patrouillaient. Ils venaient avec des torches et ils regardaient sous les banquettes. C'était vraiment la panique totale. Ils nous ont laissé passer. Il y a un grand soulagement quand le train a redémarré après la frontière et qu'on était encore tous les quatre. Et donc on a débarqué à Vienne. On a trouvé une pension pour nous héberger, le temps d'avoir un appartement. Et nous, on a été scolarisés le lendemain ou le surlendemain dans les écoles. Donc, il y a beaucoup d'Autrichiens qui parlaient allemand. Enfin, on ne comprenait rien à la langue. C'était un vrai déracinement. Et un vrai choc et beaucoup de stress pour tout le monde parce qu'on ne savait pas du tout comment la vie allait se réorganiser derrière. Moi, j'étais quelqu'un de très timide et renfermé. Et donc, ça a été très difficile pour moi, en tout cas, l'intégration à l'école. J'étais petite, j'étais plus jeune que les autres à mon niveau scolaire. Et j'ai été prise pour le bouc émissaire la première année en arrivant. La maîtresse n'était pas du tout accueillante. Je me souviens que le premier jour, je crois, elle m'a envoyé au tableau en me disant de faire la preuve par neuf d'une multiplication. Et je ne savais pas ce que c'était. Elle m'a dit « Quoi ? Vous ne savez pas ce que c'est que la preuve par neuf ?» Et moi, j'étais une bonne élève en plus, mais j'étais dévastée. Et je ne savais pas ce que c'était. Et il y avait tout le monde qui riait. Et je me faisais taper dessus par des filles de la classe. Bon, ça a duré un an. J'ai appris très vite l'allemand. Et dès que j'ai eu les mots, j'ai pu me défendre, ça allait beaucoup mieux. Et je me suis fait des amis, mais c'est vrai que ces jours-là, j'étais perdue, sortie d'un univers, plongée dans un autre, avec les parents qui n'étaient pas bien non plus, donc il n'y avait personne vraiment qui rassurait. Et la maîtresse n'était pas rassurante. Ouais, c'était vraiment comme un trou noir dans lequel on nous plongeait, puis il fallait nager pour s'en sortir.
Radu Mihaileanu, un trou noir dans lequel on se sent plongé et dont on a du mal à sortir. Vous avez eu, j'ai l'impression quand vous m'en parlez, peut-être un regard un peu plus solaire sur votre situation.
J'ai eu plus de chance, disons déjà parce que je suis parti seul. Je crois que c'est beaucoup plus douloureux de partir en famille tous ensemble avec tout le stress. J'imagine qu'elle lisait aussi le stress sur les visages de ses parents, avec cette peur effectivement dans le train des soldats soviétiques. Moi, j'ai eu cette peur à l'aéroport à Bucarest. Je savais que ça c'était une étape importante à vie ou à mort. C'est-à-dire s'ils découvraient ce que je faisais, je finissais en prison. Mais une fois passé ça, j'ai eu moins de peur et j'étais très naïf. Je me rends compte aujourd'hui. Je pensais pas que j'allais échouer. Et donc après, j'ai eu aussi la chance d'amis en France, d'amis de mes parents, la famille Oudard, pour ne pas les nommer, qui m'ont superbement accueilli, qui m'ont trouvé tout de suite un logement, etc. Donc, et j'étais inconscient. Donc j'ai vécu ça d'une manière plus légère, en tout cas. Voilà, la peur. Après l'intégration, oui, j'ai vécu des choses similaires que cette dame. Le racisme, oui, le fait d'être différent, par exemple, mais n'importe quoi, des détails, mais qui étant nouveau dans un pays nous font mal. Comme moi, j'avais pas beaucoup d'argent à l'école pour prendre tous les déjeuners, je pouvais pas dire j'ai pas d'argent, je veux pas déjeuner, je voulais pas qu'ils m'invitent, etc. Et comme j'adorais le tennis, il y avait un terrain de tennis gratuit, c'était à Bry-sur-Marne, à Lina, et je jouais tous les moments de déjeuner, j'avais trouvé un partenaire, je jouais au tennis. Donc j'ai su qu'il m'appelait un peu Tarzan, le sauvage, parce que je faisais du sport au lieu de manger. Donc voilà, bon, c'est des petites choses, mais qui à oui, cette époque-là et à cet âge-là, ça marque, genre, parce que je pouvais pas manger avec eux. Et à l'époque, oui, ça philosophait beaucoup, une cigarette à la main à l'intérieur des cafétérias, et que ils me traitaient peut-être un peu d'imbécile, que j'étais pas à la hauteur pour toutes ces réflexions de déjeuner.
Un autre de vos points communs, c'est que vos pères étaient des intellectuels et le vôtre avait été déporté en tant que journaliste juif et communiste pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a réussi à s'évader et j'ai lu, je ne sais pas si c'est le cas, qu'il a changé de nom dans la foulée et que oui. Mihaileanu, c'est son nom d'emprunt, en fait.
Oui, c'est celui qui a falsifié sa carte d'identité pendant la guerre. Il s'appelait Mordechai Buchmann. Et c'est lui à la main qui a falsifié la carte pour pouvoir après survivre, exister, travailler.
C'est-à-dire que le nom que vous portez est ce nom-là, ce nom qu'il a inventé.
C'est un nom d'emprunt, oui. Et mes enfants, pareil. Et à chaque génération, chaque parent dit, mon père me l'a dit à moi, moi je l'ai dit aux enfants, si vous voulez changer de nom, vous avez le droit parce que c'est un nom d'emprunt, soit revenir à Buchmann, soit faire ce que vous voulez puisque c'est chiant. Mia Elano, personne n'y arrive. Et moi, à un moment donné, j'ai hésité parce qu'il m'a engueulé. Il m'a dit, mais t'es cinéaste, personne n'arrivera à prononcer ton nom. Et après, je me suis dit, non, je peux pas. Si je le fais, j'élimine sa vie. Donc, je sais qui je suis à l'intérieur, que je suis Buchmann à l'intérieur. Et je ne trahis pas. Non, à l'intérieur de moi-même, moi avec moi-même. Non, à l'état civil, je suis Mia Elano.
Ah oui, donc c'est partout. À l'état civil, ok. C'est...
Oui, donc j'ai pas voulu changer de nom pour ne pas avoir l'impression de le tuer, lui, sa vie et son destin.
Vous aimez, pour faire vos films, aller sur place longtemps, rencontrer les gens. Et vous dites que c'est peut-être ce que vous préférez d'ailleurs dans le fait de penser un film. Comment vous faites? Comment vous pensez justement ces films en amont?
Disons au début avec mon ami Alain Michel Blanc, toujours, mon vieux complice, le malouin, le pirate, le corsaire. donc on a une idée de scénario et ensuite on part, aidé par nos producteurs qui nous permettent ce luxe-là, on part avant d'écrire quoi que ce soit sur les lieux du crime, pour être assez certain, autant que possible, de ne pas trahir la culture, l'identité des gens, des personnages qu'on traite. Donc, il nous est arrivé d'aller en Israël, en Tanzanie, au Maroc, etc., etc., pour chaque film. Et on passe entre 2-3 pour Vavier de Vien. On est resté très longtemps, parce que c'était assez complexe de comprendre les deux identités, et éthiopienne, même les trois. Éthiopienne chrétienne, éthiopienne juive et israélienne. Mmh. Et souvent, ce qui est le plus beau, et on se dit à ce moment-là, on se dit si on rate le film, c'est pas grave, parce qu'on a rencontré des gens extraordinaires, et nous-mêmes, nous sommes beaucoup plus riches qu'avant. Mais ce qui est le plus beau, et je dirais par rapport au voyage, moi, ce qui me plaît le plus dans le voyage, c'est voyager à l'intérieur des subjectivités des autres. Le plus compliqué, le plus beau, c'est lorsqu'on a l'impression, un tout petit peu, de comprendre la subjectivité de quelqu'un d'autre qui est très différent de nous. De se dire, ah, je comprends comment il pense et son point de vue, bon, ce que certains appelaient l'anthropologie à l'envers. Et on est allé tellement loin jusqu'en Tanzanie, à un moment donné, on s'est arrêté sur la route. Et on était dans le Langai et à un moment, on voit au loin une girafe qui nous regarde. Et on a eu tous les deux le réflexe, donc avec Alain Michel, de se dire qu'est-ce qu'elle doit penser de nous. Qu'est-ce qu'on aimerait dans son cerveau, de se dire qu'est-ce qu'ils font là, ces deux blancs-là, avec leur bermuda, ils sont complètement ridicules. Parce que souvent, on se pose la question comment nous, on voit ce qu'on voit. Mais rarement, on se pose la question comment les autres nous voient. Donc, à travers comment ils nous voient, on commence à les comprendre un tout petit peu. Et ça, on a plein d'histoires merveilleuses. Au Maroc, par exemple, c'était très dur de comprendre la culture féminine, arabo-musulmane, berbère, dans un pays musulman, alors que je suis juif d'origine roumaine, français, etc., et qu'Alain Michel est breton, etc. Ouais. Et on a mis très longtemps pour comprendre des petits détails. Par exemple, le mot « tradition », on a mis un mois en se disant « tradition », elles nous le disent souvent, on comprend pas le sens. C'est pas le sens qu'on imagine. Et on a mis un mois avec l'aide d'une sociologue qui finalement nous a ouvert les yeux. Et ce détail-là, c'est une lumière. Lorsqu'on comprend ça, c'est le plus beau voyage au monde.
Vous avez tourné dans beaucoup de pays, vous avez voyagé dans énormément de pays. Et à moins que je me sois trompée, j'ai pas l'impression que vous tourniez en France.
J'ai tourné la moitié d'un film en France, le concert.
Ah, le concert, c'est la moitié. Ce que j'allais vous dire, et pourquoi vous préférez, peut-être que c'est pas le terme, tourner ailleurs qu'en France, mais peut-être qu'il n'y a pas de raison.
Je crois pas qu'il y a de choix. C'est-à-dire, je dirais presque, c'est les sujets qui me choisissent. Mais ils me choisissent parce que je suis comme je suis, mais je ne m'analyse pas. Donc, dès qu'un sujet me touche, par exemple, Vavier de Vien, l'histoire de ce môme, bon, j'ai entendu une histoire qui n'est pas exactement celle-là, mais je me suis dit, mais c'est moi, ce môme qui doit partir de chez lui, qui doit séparer de sa mère, qui, etc. Ça me touche tellement. Donc, je dois le comprendre et je dois, mais quelque part, je savais que je me racontais tout en me cachant. Donc, maintenant, que ça soit un pygmée, que ça soit après, mon grand souci, c'est de ne pas trahir ce qu'ils sont eux. De ne pas juste me raconter moi à travers eux et de les manipuler. Mais demain, s'il y a un sujet aussi fort qui me touche en France, je le raconterai en France. Je n'ai rien contre la France et je pense la connaître un peu. Après aussi, je me dis, il y a des cinéastes français qui sont 10 fois hommes et femmes, 10 fois plus forts que moi pour raconter la France. Donc, mais bon, peut-être que sur certaines nuances, j'ai aussi un petit mot à dire.
Un mot à dire. Radu Mihaileanu est dans Chacun sa route jusqu'à 15h. C'est le titre parfait pour ambiancer votre été. L'artiste britannique Céleste nous propose un extrait de son prochain album qui va sortir en septembre. Stop This Flame, vous écoutez France Inter.
But I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on.
You'll never stop this day. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on.
You'll never stop.
Écoutez France Inter, Céleste à l'instant, chacun sa route jusqu'à 15h avec le réalisateur Radu Mihaileanu. Va, vie et devient, c'est le titre de l'un de vos films, sans doute celui qui est le plus connu, même si le concert est aussi très connu, est sorti il y a déjà 15 ans, ce qui n'a rajeuni personne. Vous êtes devenu, vous ?
Oh, certainement pas, non. Et je le deviendrai jamais, j'allais dire j'espère, parce que si on le devient déjà, c'est qu'on est fini. Bah non, la route, elle est belle, elle est longue, voilà.
Et la prochaine étape sur votre route, c'est quoi ?
On a toujours avec Alain Michel Blanc, mon complice.
Vous êtes vraiment un duo.
On est un couple, bientôt on va paxer. on a un projet à nouveau chez les Pygmées, parce que ça nous fascine et que c'est tellement actuel ce qui se passe dans cette forêt africaine dont personne ne parle. Heureusement, les gens parlent de l'Amazonie, mais de la forêt équatoriale africaine et des pygmées, personne n'en parle. Après, j'ai un projet aussi en Chine et un autre en Israël à nouveau. Donc voilà, on voyage.
Donc on va entendre parler de vous dans les prochaines années à nouveau. si tant est qu'on n'entend pas déjà parler de vous assez régulièrement, Radu Mihaileanu. J'ai une mission pour vous, c'est que chaque jour, pour terminer cette émission, on fait le portrait d'une exploratrice. C'est la même toute la semaine, et cette semaine on s'intéresse à Ella Maillard. On a parlé lundi de sa passion pour le sport, et du fait qu'elle excellait en ski, en hockey et en voile. Hier on a raconté que son premier grand voyage en Russie l'a vraiment bouleversée, et elle a écrit un livre qui a débuté sa carrière. Radu Mihaileanu, vous êtes, pour les prochaines minutes, si vous le voulez bien, Ella Maillard.
Avec plaisir.
Après la Russie, qui a laissé chez Ella Maillard une trace indélébile, elle va profiter des années 30 pour faire plusieurs voyages extraordinaires. En 1934, la voici en route pour la Chine. Le Petit Parisien lui commande un reportage sur la Mandchourie, alors occupée par les Japonais. Elle y reste 3 mois, et là-bas, elle rencontre Peter Fleming, le frère de Yann, auteur des James Bond.
Si Fleming n'avait pas été aussi intelligent, aussi drôle, je ne l'aurais pas supporté plus d'une heure.
Parce qu'il n'y a pas de mission impossible, fallait la faire, ils partent ensemble, en 1935, pour un périple à travers les déserts d'Asie centrale, l'une des régions les moins explorées du globe. Et pour cause, elle est ravagée par une guerre civile. Ils partent, comme Ella Maillard aime le faire, presque sans bagage, sans autorisation, à l'aventure, avec un sac de farine d'orge grillée, un peu d'ail, des raisins secs, comptant manger ce qu'ils s'apprêtent à chasser.
Nous sommes emportés dans l'ombre fraîche des grands arbres. J'ai l'impression d'avancer à une vitesse folle. Quel sentiment de supériorité nous habite lorsqu'on est seul à rouler sur une route. Une joie unique est en moi.
Il voyage pendant 7 mois pour atteindre Srinagar, au Cachemire indien, en voiture, mais aussi accompagné par une caravane de chameaux. Elle en écrira un livre, « Oasis interdite », qui est un succès. Lui publiera « Courrier de Tartarie ». 3 ans plus tard, en 1938, elle fait la tournée des conférences dans plusieurs pays européens. C'est comme ça qu'elle rencontre la journaliste Anne-Marie Schwarzenbach. C'est un coup de foudre amical. Anne-Marie Schwarzenbach, réputée pour sa plume aiguisée, est, en cette fin d'année 1938, en cure de désintoxication. La 5e. À Yverdon-les-Bains, où se trouve la clinique dans laquelle elle tente de se reconstruire, elles se promènent toutes les deux et elles parlent voyage, bien sûr. Alors quand, 2 mois plus tard, dans la maison de campagne d'Anne-Marie, Ella est très enthousiaste en lui racontant que son père va lui offrir une nouvelle voiture, une Ford, et qu'elle compte la conduire jusqu'en Afghanistan, Anne-Marie propose de l'accompagner et promet de manger plus, de fumer moins et de ne plus se droguer. Elle insiste, plus jamais. Ella Maillard se dit qu'elle peut réussir, là où beaucoup d'autres ont échoué, sortir Anne-Marie de sa dépendance. Et en juin 1939, alors que la Seconde Guerre mondiale est aux portes de l'Europe, elles partent, toutes les deux de Genève, à bord de cette fameuse Ford. 18 chevaux sous le capot, une petite croix suisse imprimée sur la plaque. Pour payer le voyage, plusieurs journaux sont demandeurs d'articles, en bonne place dans leur chargement des machines à écrire, et une roue de secours quand même. C'est Anne-Marie Schwarzenbach qui conduit. Ella Maillard la guide, carte ouverte sur les genoux. La route file, défile. Il y a dans leur voyage des moments intenses, de grâce. Cette semaine, par exemple, passée sous la tente en Afghanistan, avec pour voisins de grands bouddhas sculptés dans la falaise.
Soudain, je comprends quelque chose. Paris n'est rien. Ni la France, ni l'Europe, ni les Blancs. Une seule chose compte, envers et contre tous les particularismes. C'est l'engrenage magnifique qui s'appelle le monde.
Quand elles arrivent, 3 mois plus tard, à Kaboul, elles apprennent que la Seconde Guerre mondiale vient de débuter en Europe. Anne-Marie ne s'en relève pas.
Aussitôt que la guerre eut anéanti nos plans, son démon avait relevé la tête. Une fois de plus, ce fut la même histoire. Avec une audace insensée, avec une ruse sauvage, son second, elle-même, avait obtenu le grand nombre d'ampoules nécessaires.
Anne-Marie veut rentrer. Ella préfère rester en Asie. Pour qu'elle soit en état de parcourir de nouveau le monde au volant de la Ford, Ella missionne un anthropologue français de l'accompagner. Leur route se sépare là, après ces semaines d'intensité, et Ella Maillard va en direction de l'Inde. Toutes les deux ne se sont jamais revues. La suite demain, et l'intégralité en podcast à la fin de la semaine. Radu Mihaileanu, cette émission s'appelle « Chacun sa route ». Chacun sa route, chacun son chemin. Quel message passer à votre voisin ?
Bah, va vie et deviens. Et bon vent, comme dirait mon ami Malouin.
Ah, comme ça, on le remet à la fin. On le remet à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous, Radu Mihaileanu. Chacun sa route, épisode 18. Revenez demain. Demain, on va partir dans l'espace à la rencontre assez incroyable. quoique, des déchets qui nous entourent. Et puis la photographe Charlotte Abramov sera notre invitée à partir de 14h pour parler du dernier voyage de son père et de comment elle l'a accompagné par l'image. Merci à Céline Dubois, Louise Cognard, Vera Louderide, Thomas Somaro et Claire-Sophie Collet qui ont préparé cette émission. Et à Djoubaka pour la programmation musicale. On se quitte avec un souvenir musical justement lié au voyage. Aujourd'hui c'est Clara.
La scène se passe au printemps 2011. On est 5, 3 Allemands et 2 Françaises, partis en road trip d'une dizaine de jours en Californie. On a loué une voiture, on va de motel en auberge de jeunesse. C'est un vrai sentiment de liberté qui nous prend tous. On est heureux d'être là, le long de l'océan, dans une nature sauvage. On se connaît tous depuis seulement quelques mois, mais on se sent comme une petite famille dans cette voiture. Très proche et d'autant plus soudée que l'on est loin de nos pays. Et la chanson qui va nous accompagner dans l'habitacle, c'est « Friends of Mine » d'Adam Green. Évasion et sourire garantis. Et pensez à mes 4 comparses, Océane, Anita, Phil et Cathy.
And we live on borrowed time, but this headshot's pretty good. I've been scheming for too long.
Merci pour tous vos souvenirs musicaux. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer